BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, c'est reparti, Good Evening Business, deuxième heure, toujours avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Et donc dans l'actualité ce soir, voici un nouvel épisode du dossier Casino, épisode on ne sait plus trop combien, mais on va vous raconter ce soir comment les discussions s'interrompent entre certaines parties prenantes, mais comment une autre offre va émerger dans la foulée. On va voir ça avec Mathieu Pechberti, bien sûr, dans un instant.
Et sinon, il n'y a donc finalement pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Liot qui voulait abroger la réforme des retraites du gouvernement, puisque le groupe Liot a renoncé à présenter un texte qui était vidé de sa substance. Et c'est la députée LR, Véronique Louwagie, qui sera avec nous à 19h15 pour en parler.
Pas mal de choses à voir ici d'ici 19h30. EDF qui sort de bourse ce soir. Vivendi, on vient de l'apprendre, qui va quitter le CAC au profit d'Edenred. Et puis la France qui continue de créer des emplois. Les chiffres qui sont tombés ce matin sur le premier trimestre étaient très très bons. On verra ça bien sûr également dans un instant.
Et l'autre rendez-vous ce soir, c'est 19h30 au micro d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. C'est l'économiste Elie Cohen.
Eh bien, on continue ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc, nouvel épisode, un de plus dans le dossier Casino, qui en compte déjà beaucoup, qui en comptera encore sans doute beaucoup. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on apprend ce soir? Alors que Casino et Teract mettent fin à leur discussion, mais que le trio Niel, Zouaori, Pigas continue de plancher sur une offre en parallèle, peut-être aussi pour continuer à soutenir le distributeur. C'est ça, Mathieu, qui se passe finalement.
Hein. Oui, exactement. On prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que le groupe Teract, hein, qui était effectivement dirigé notamment par ce trio de Monsieur Zouaori, Pigas et Niel, ainsi que de la coopérative, en tout cas du groupement de coopératives agricoles Invivo, lui, stoppe ses discussions avec Casino, qui avait commencé il y a maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Ouais. Il était essentiellement basé sur un projet industriel, en tout cas d'unification des réseaux de casinos en France, Monoprix, Franprix, essentiellement avec ceux de Teract, pour en tout cas les alimenter grâce aux produits des coopératives agricoles. Sauf que ce projet, il n'y avait pas en tout cas de volet financier. Or, Casino est une entreprise qui est quand même dans une situation extrêmement délicate. Et donc aujourd'hui, il faut avant tout régler ce problème financier et apporter de l'argent. Donc, le groupe Teract, on va dire, stoppe ces discussions et les fondateurs de ce groupe, messieurs Zouaori, Niel et Pigas, eux vont investir, alors ouais, on parle d'environ 300 millions d'euros, directement dans Casino. Ce chiffre pourra vraisemblablement évoluer en fonction de la situation financière de Casino qu'on ne connaît pas. Et ils vont se retrouver donc avec une offre pour le moment purement financière qui pourra être améliorer au fur et à mesure des négociations dans le cadre de la conciliation, vous savez, qui a commencé entre oui, Casino et ses créanciers, pour là, on va dire, pluguer, mettre en tout cas un projet industriel avec le groupe Teract Invivo. C'est un petit peu compliqué, mais maintenant, on est quand même sur les projets financiers, oui, à la fois de ce trio d'hommes d'affaires et également de M. Kretinsky, qui oui, lui a fait une offre financière il y a maintenant plusieurs semaines d'environ 1 milliard d'euros. Lui manquait de projet industriel, mais en réalité Casino aujourd'hui a besoin d'avant tout d'un projet financier et ensuite ils regarderont le projet industriel. À noter juste quand même que lundi il y aura des remises de rapports d'expertise très importants, laquelle qui sont censés faire la lumière sur la situation financière de Casino, car personne ne sait exactement quelle est-elle et combien il faut mettre d'argent dans cette entreprise pour qu'elle continue à vivre.
Et ben voilà, le feuilleton continue, bien sûr on suivra ça évidemment au fur et à mesure sur BFM Business. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 19h04, Étienne Braque, bonsoir. Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a du mouvement au sein du CAC 40. Vivendi va sortir et c'est Edenred qui va rentrer. Alors à plusieurs reprises, le patron d'Edenred, Bertrand Dumazier, est venu nous voir en nous disant oui, c'est un rêve absolu. Voilà, c'est un aboutissement ce soir pour Edenred.
Ah bah oui, très clairement. Hein. Puis surtout que vous avez un cours qui est sur des plus hauts historiques. Edenred, hein, on est ce soir à 60 euros. Ça a été introduit en 2010 à 14 euros. Donc vous voyez, ça a été multiplié par plus de 4. Ancienne filiale d'Accor. Hein. Avant, c'était Accor Service. Et puis il y a une scission. Et puis aujourd'hui, on est sur un leader mondial. On est sur des plus hauts historiques. Ça pèse 15 milliards en bourse. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus gros que Carrefour, c'est plus gros également que Bouygues, Alstom ou encore Renault. C'est le premier changement dans le CAC 40 depuis 2021. Et souvenez-vous, Eurofin Scientifique qui avait fait son entrée dans le CAC 40 à la place d'Atos. On connaît le parcours d'Atos depuis, hein, pour des raisons diverses. C'est un mouvement intéressant, hein, quand même, de voir aujourd'hui Edenred qui rentre à la place Vivendi qui sort. On se souvient qu'il y a pas mal de spéculations, hein, sur ce dossier Vivendi. Est-ce que Vincent Bolloré va sortir ou pas de la cote le dossier? Ça sachant qu'on a vu qu'il a vendu certaines actions ces dernières semaines afin de ne pas franchir les fameux 30% et pour ne pas faire d'OPA. En tout cas, il y avait beaucoup de spéculations sur ce dossier Vivendi. Si on regarde en termes de classement, aujourd'hui, Edenred, ça sera la 33e capitalisation du CAC 40. Ouais. Donc, ce n'est pas rien. Et ça sera effectif très prochainement, hein, puisque ça sera le 16 juin prochain, donc dans un peu plus d'une semaine.
Et ben voilà, donc Vivendi qui va quitter le CAC et Edenred, leader des services prépayés, qui fera son entrée donc dans une grosse semaine. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Brack avec nous sur BFM Business. 19h06, EDF, lui, avait quitté le CAC depuis longtemps. EDF quitte la bourse définitivement ce soir, maintenant que l'État est actionnaire à 100%. Nouvelle feuille de route pour le patron Luc Rémont, notamment sortir de l'ARENH, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qu'il lui impose de vendre à prix bradé un quart de son énergie. C'est ce que nous disaient les spécialistes de l'énergie tout à l'heure, Nicolas Meillant. Écoutez son point de vue.
Ce qu'il faut vraiment résoudre, c'est que EDF avant était une entreprise qui fonctionnait bien parce qu'elle gagnait de l'argent, puisqu'elle vendait l'électricité au-dessus de son coût de production. Oui. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité, elle le vend en dessous. Donc déjà, il faut remettre le modèle d'affaires en marche pour qu'elle puisse avoir des coûts des franches et qu'elle puisse générer du cash chaque année et pas faire 20 milliards d'euros de pertes. Donc ça, c'est la première étape et c'est très simple, comme j'ai dit. C'est le ministre de l'économie et le ministre de l'énergie qui signent un décret pour suspendre l'ARENH sans délai. C'est pas quelque chose qu'on invente, hein. C'est la commission d'enquête Raphaël Schellenberger. Ça fait partie des 30 propositions. Suspendre l'ARENH et le compenser, bien évidemment, pour nos entreprises.
Voilà, Nicolas Meillant, spécialiste de l'énergie, qui était avec nous tout à l'heure pour commenter la future feuille de route d'EDF, maintenant que le groupe est définitivement sorti de la bourse. Ça faisait 17 ans qu'il y était. Sinon, ce n'est pas une catastrophe absolue, mais les chiffres l'ont quand même confirmé ce matin. La zone euro a connu la récession cet hiver. Recul du PIB au quatrième trimestre 2022, ça on le savait. Et puis recul aussi sur le premier trimestre 2023. Ça, on l'a appris ce matin, donc ça fait deux trimestres dans le rouge. Et donc récession, même si elle a été assez minime apparemment. Et puis bonne nouvelle par ailleurs en France, il n'y a jamais eu autant de PME à tenter l'aventure à l'international. Ça, c'est ce qui ressort du baromètre Capital Export Opinionway qui est sorti ce matin. Apparemment, beaucoup de patrons de PME ont changé de stratégie après le Covid. On voit tout ça avec Hélène Cornet.
C'est un dynamisme qui a surpris même les auteurs de l'étude. Le nombre de PME françaises exportatrices est passé de 41% en 2021 à 67% cette année. Une réaction des dirigeants à la période Covid, selon le président de Capital Export. Les entreprises ont subi la fermeture des frontières, les contraintes d'un marché domestique figé. Cela a décuplé leur envie de se projeter sur de nouveaux marchés et d'augmenter leur périmètre commercial. Leur zone prioritaire de développement, l'Europe et les États-Unis. Les PME ne veulent plus être de simples spectatrices des incertitudes géopolitiques. Elles ont utilisé les aides accumulées durant la pandémie pour partir à l'offensive. Industrie, services ou distribution, tous les secteurs sont concernés. La seule condition étant d'être innovant et de proposer des produits à forte valeur ajoutée capables de faire la différence. Pour celles qui y sont déjà, l'international semble leur réussir. Ils représentent en moyenne 25% de leur chiffre d'affaires contre 12% en 2021.
Voilà, de plus en plus de PME français qui partent à l'international. Hein. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h09, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Oui, c'est pas passé grand-chose ce soir encore. Petite clôture, plus 0,27%. 7222 points ce soir pour l'indice parisien. Bonsoir Sabrina, est-ce que c'est aussi calme chez vous à New York à la mi-séance?
Bonsoir. Écoutez, c'est calme, mais on a de jolies progressions, des indices qui accélèrent leurs gains depuis ce matin l'ouverture. On poursuit le rallye sur ces marchés américains avec des investisseurs qui ont pu se mettre sous la dent des dernières données concernant le marché de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont dans le bon sens pour la réserve fédérale américaine puisqu'elles sont à 261 000, ce qui est un plus haut depuis octobre 2021. Des marchés qui fixent à désormais plus de 70% la probabilité de voir la réserve fédérale américaine faire une pause lors de sa prochaine réunion la semaine prochaine où on aura également des données concernant l'inflation. L'actualité entreprise, elle est marquée par le plongeon de GameStop à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Des ventes qui ont reculé de nouveau et plus que prévu et le licenciement sans explication du CEO de la société. On notera que Ryan Cohen devient le président exécutif exécutif de GameStop qui perd en bourse un petit peu plus de 17%. Enfin, belle hausse en revanche pour le spécialiste de la vente en ligne de véhicules de seconde main, Carvana, après des prévisions très optimistes pour son deuxième trimestre. Et un marché qui clairement apprécie, puisque figurez-vous que ce titre Carvana s'envole de pratiquement 45%. Voilà donc pour cette séance américaine, la hausse, Dow Jones prend 0,4%, le S&P 500 se rapproche des 4300, le Nasdaq plus 0,9%.
Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve évidemment toute la soirée pour faire le point sur cette fin de séance du côté du marché américain, bien évidemment. 19h11, deux sujets à voir ensemble dans un instant jusqu'à la demi. Un, la proposition de Lyot qui n'a donc pas été examinée. On en parlera avec la députée des Républicains, Véronique Louwagie. Et puis, bonne nouvelle, la France qui, contre vents et marées, continue de créer des emplois. Les chiffres du premier trimestre qui sont tombés ce matin sont assez bons finalement. On raconte tout ça dans un instant. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h15 et nous recevons maintenant la députée Les Républicains de l'Orne. Bonsoir Véronique Louwagie.
Bonsoir madame.
Alors vous êtes aussi membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bon, on va parler avec vous de cette fin du projet Lyot qui n'a finalement pas été examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors j'ai deux questions. Un, est-ce que vous regrettez que le vote n'ait pas eu lieu et est-ce qu'il pouvait avoir lieu, d'après vous, dans la mesure où, de toute façon, le texte avait été vidé de sa substantifique moelle, c'est-à-dire l'opportunité de revenir sur le décalage de l'âge de départ à la retraite.
Alors, il y a deux questions, finalement, que vous posez. Une première, de savoir si cette proposition de loi créait une charge et devait donc donner lieu à une irrecevabilité au titre de l'article 40. En fait, il y a une vraie difficulté sur ce sujet. Parce que si nous prenons l'article 40 dans la Constitution, à la question de savoir si cette proposition de loi créait une charge, la réponse est oui. À une autre question de savoir si un grand nombre de propositions de loi qui ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui ont été déclarées recevables, quand bien même elles créaient une charge, la réponse est également oui.
Ouais.
Voilà. Donc en fait, il y a une vraie difficulté et cela mérite que nous revoyons aujourd'hui l'article 40 et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que finalement, cela veut dire que les députés sont privés d'initiative parlementaire.
Voilà, c'est
ça. Nous savons très bien que lorsque nous déposons une proposition de loi, il y a une charge. Alors, pas forcément de la nature et du montant de celle qui était concernée. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet.
Est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand même à l'issue de cette séquence, cette longue séquence, de n'avoir jamais pu, vous, députés de la République, voter oui ou non pour ou contre le décalage de l'âge légal de départ à la retraite, alors, finalement? Parce que c'est ça qu'on tient.
Si vous voulez, je crois aussi, et moi je l'ai d'ailleurs dit à Charles de Courson, je crois que cette proposition de loi, elle le les Français, parce qu'elle n'avait aucune probabilité d'aboutir et d'être adoptée par les deux chambres, puisque peut-être qu'elle aurait pu être adoptée à l'Assemblée nationale. Mais encore fallait-il ensuite qu'elle soit inscrite au Sénat, qu'elle soit adoptée au Sénat en l'état, sinon c'était un certain nombre de navettes. Donc très sincèrement, chacun des parlementaires raisonnables savaient qu'elles n'avaient aucune probabilité d'aboutir. Et moi, je considère qu'on leurrait les personnes, les Français, à leur faire croire qu'effectivement, nous pouvions revenir sur le relèvement de l'âge légal à la retraite à 64 ans. Et à un moment donné, je crois que nous devons avoir des discours de vérité.
Alors, du côté des syndicats, eux, en tout cas, disent ne pas vouloir s'arrêter là. Bon, vraisemblablement, il semble quand même que cette page des retraites, elle commence à se tourner. Maintenant, il reste quand même 4 ans de mandat. Si vous deviez nous décrire en 2 minutes les grandes réformes sur lesquelles les Républicains veulent désormais mettre l'accent, ça serait lesquelles?
Alors, je crois que déjà, il appartient à l'exécutif de renouer le dialogue avec les corps intermédiaires et avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Ça, c'est un préalable. Parce que c'est vrai qu'il y a une très forte crispation dans notre société. Et ça, c'est de la responsabilité de l'exécutif, du gouvernement, de reprendre ce cours normal. Ensuite, il y a des sujets qui intéressent les Français. Je crois que nous avons ce sujet de l'immigration. Hier soir, moi, j'ai défendu une proposition de loi sur l'aide, une proposition de résolution, pardon, sur l'aide médicale de l'État, qui a interpellé. Je sais qu'il y avait un certain nombre de fractures au sein de la majorité. Je crois que l'immigration est un sujet que nous devons aborder de manière dépassionnée, raisonnée et aussi avec un côté, je dirais, humaniste. Après, il y a toute la question des relations avec les collectivités territoriales. Je crois que nous devons reprendre aussi ce sujet de la décentralisation, qui est un sujet très fort, où finalement, nous le voyons aujourd'hui, un certain nombre de confusions dans des compétences qui peuvent exister. Et nous devons redonner de la clarté et de la lisibilité aux Français.
Est-ce qu'on va retrouver les Républicains sur ce qui est finalement leur logiciel idéologique au plan économique, c'est-à-dire la maîtrise des déficits et de la dette? Je dis ça parce que vous avez publié il y a quelques heures avec votre homologue de Renaissance, Robin Reda, un rapport qui fait des propositions pour dégager 15 milliards d'euros d'économies dans l'administration d'ici 2030. Voilà. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu les Républicains, le logiciel républicain dans cette proposition?
Oui, oui. Nous sommes très attachés à la maîtrise des dépenses publiques parce que nous considérons qu'il faut réduire le déficit. Et la réduction des déficits, pour nous, que ce soit clair, ne peut pas passer par une augmentation des prélèvements obligatoires. Oui. Parce que nous avons déjà un niveau de prélèvement obligatoire en France qui est largement supérieur à celui qui existe dans nos pays voisins. Donc, si nous voulons réduire nos déficits, cela passe par une diminution des dépenses publiques. C'est ce que nous avons conduit avec mon collègue Robin Reda dans le cadre de cette mission, qui était finalement la réorganisation de l'administration, la rationalisation de notre administration, avec comme prisme la diminution des dépenses publiques. Trois constats. Les Français sont attachés aux services publics, mais ne sont pas satisfaits de la qualité du service public. Deuxième constat, les agents des services publics sont en mal de reconnaissance, et nous le constatons aujourd'hui. 2022, c'était plus de 5000 postes vacants qui manquaient, dont 4000 dans l'éducation nationale. Nous avons un taux d'absentéisme très important, donc un vrai malaise au niveau des agents publics. Troisième constat, nos services publics coûte 3,4 points de PIB de plus que la moyenne du coût dans les pays de l'OCDE. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Voilà, donc force est de constater qu'il y a des pistes d'amélioration, et c'est ce que nous avons proposé dans ce rapport. Probablement que nous pourrions faire mieux, mais deux constats. Déjà, nous ne pouvons plus parler de diminution du nombre d'agents, ça c'est le premier point. Oui. Et véritablement, nous, c'est la qualité du service public, la qualité du travail des agents, et aussi
Véronique Louw-Levagie, est-ce que vous sortez ce plan maintenant parce que vous avez peur de voir à terme le gouvernement lui sortir des hausses d'impôts?
Non, ce plan, juste resituer pourquoi il sort maintenant, à l'automne, les députés, les Républicains ont proposé un plan de sobriété bureaucratique. Nous l'avions chiffré à 20 milliards d'euros échéance 2027, c'était dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, et 10 milliards plus tard. À chaque fois, le gouvernement m'a opposé, les ministres, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, m'ont opposé que ça n'était pas documenté, que ça n'était pas précisé, et, voilà, que ça manquait de détails. Je leur concède, effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle les députés, les Républicains, ont demandé à la Commission des Finances d'avoir une mission d'information sur le sujet, et nous avons donc bâti des propositions qui nous amènent à une économie, une diminution des dépenses de 15 milliards d'euros à échéance 2030.
15 milliards à échéance d'endettement de 3 000 milliards. Bon, après, on pense ce qu'on veut. On va dire que c'est une première étape, Madame Louw-Levagie. Voilà. Oui. Voilà, on va s'arrêter.
Il faut commencer par des millions pour arriver à des dizaines de milliards.
Et ben voilà pour ce rapport que vous avez publié donc il y a quelques heures avec votre homologue de Renaissance, Robin Reda. Merci beaucoup, Véronique Louw-Levagie. Merci infiniment d'être passée nous voir ce soir, députée Les Républicains de l'Orne, membre de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. À très vite sur BFM Business. 19h22. On voulait finir avec des bonnes nouvelles quand même ce soir.
Oui, sur l'emploi salarié qui résiste.
Oui, parce que contre vents et marées, on se rend compte que la France continue de créer des emplois dans le secteur privé. On va en parler avec Sylvain Bersinger qui est avec nous en visio, économiste chez Asterès. Bonsoir Sylvain, merci d'être avec nous quelques instants. Qu'est-ce que nous a dit l'INSEE ce matin? Qu'au premier trimestre, l'économie française avait créé, alors si j'arrondis, c'est à peu près 87 000 emplois, c'est ça Sylvain, hein?
Oui, j'arrondis autour de 90 000, mais enfin oui, c'est cet ordre de grandeur. Oui. Et ce qu'il faut voir, c'est que la nouvelle, j'ai envie de dire, encore plus positive que ce que vous disiez, c'est que c'est une révision à la hausse du nombre d'emplois, puisqu'il y avait une première estimation qui tablait plutôt sur 40 000 créations nettes. Là, le chiffre a été révisé à la hausse, a été presque doublé. Et il faut voir aussi que le chiffre du quatrième trimestre, des créations d'emplois au quatrième trimestre, a été légèrement revu à la hausse. Donc il y a vraiment une dynamique de création d'emplois fin 2022 et début 2023 qui est restée forte et plus forte que les premiers indicateurs qu'on avait eus.
Mais Sylvain, est-ce que c'est pas un peu surprenant quand même que la machine continue à tourner malgré la faible croissance et malgré l'inflation? Parce que c'est quand même un chiffre qui est bien supérieur aux 44 000 créations nettes du trimestre précédent.
Oui, alors il y a deux choses. Il y a que malgré tout, l'économie française, contre vents et marées, reste en croissance faible, mais en croissance quand même. Et il y a un autre aspect qui est un peu le revers de cette médaille, c'est en fait la baisse de la productivité. C'est-à-dire que depuis plusieurs années déjà maintenant, la productivité du travail est en baisse. Elle est à peu près 4% plus faible qu'elle n'était avant la crise Covid. Donc ça, c'est une baisse quand même très importante. Et ça a continué sur ces derniers trimestres. Donc c'est, disons que si les salariés sont moins productifs, ouais. Eh ben, il en faut plus pour faire la même quantité de travail. Oui.
C'est ça qui est étonnant, Sylvain, c'est qu'on continue à créer de l'emploi avec toujours moins de croissance, alors que fut une époque pas si éloignée, on nous disait bon bah finalement à moins de 1,2, 1,3% de croissance, finalement le chômage remonte en France. Bah ça c'est terminé finalement. Hein.
Ça c'était avant. Ouais.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un aspect qui est probablement à mon avis assez conjoncturel, qui est le boom de l'apprentissage, puisqu'en fait sur les créations nettes d'emplois depuis la crise Covid, grosso modo, l'INSEE nous dit il y a à peu près un tiers des emplois créés qui sont des contrats d'apprentissage. Donc en fait, c'est une hausse qui ne va pas être perpétuelle parce qu'il n'y a pas un vivier d'apprentis potentiels en France qui n'est pas illimité. Et donc vu que les apprentis sont plus jeunes et donc moins expérimentés, donc moins productifs et passent une certaine partie de leur temps en école, en formation, eh bien mécaniquement, un apprenti génère moins de production qu'un autre salarié qui aurait par exemple 10 ou 20 ans d'expérience. Donc je crois que dans ces chiffres de l'emploi globaux qui sont bons, avec des créations d'emplois importantes et en même temps une productivité qui baisse, je crois que cet effet de la hausse de l'apprentissage, la hausse forte du nombre d'apprentis, qui je pense est une bonne chose, par ailleurs, en fait explique pour partie ces chiffres. Et comme vous le disiez, on avait par le passé des dynamiques de l'emploi qui réagissaient pas forcément de la même façon à la croissance, en tout cas qui n'augmentaient pas, enfin, l'emploi ne suivait pas aussi fortement la croissance. Et je crois que l'apprentissage, qui est vraiment quelque chose d'assez structurel, un changement assez fort depuis un an ou deux, explique pour une large
pourquoi, part. Ça résiste en France.
Interrogation.
Ouais. Voilà. Bon, on va retenir que l'apprentissage, le développement de l'apprentissage, la montée en puissance de l'apprentissage reste évidemment une très très bonne chose. Merci beaucoup Sylvain en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir.
Plaisir.
Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Voilà pour la bonne nouvelle sur laquelle on voulait terminer. Évidemment, ça éloigne des choses. 19h26 bientôt sur BFM.
Et c'est l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Audrey. Bonsoir Edwige.
Votre invité ce soir.
Eli Cohen, donc économiste, un des meilleurs connaisseur de l'industrie française et notamment d'EDF, ça tombe bien, ce soir EDF est donc renationalisé 17 ans après à 100%. Bruno Le Maire, du reste, est en train de s'exprimer sur la question pour expliquer pourquoi c'est un enjeu si important pour la France et puis pour les industriels qui sont quand même très inquiets sur la fixation du prix.
Avec une petite rébellion quand même de la part du président Luc Rémont qui a dit qu'il n'était pas renationalisé mais qu'ils avaient un actionnaire unique.
Voilà, oui, mais c'est tout l'enjeu justement, parce qu'il y en a un qui veut des prix très bas, c'est Bruno Le Maire. Ouais. Il y en a un qui veut des prix très hauts pour rentabiliser, parce qu'il a 65 milliards de dettes. Ouais. C'est Luc Rémont, justement, le patron d'EDF.
C'est jamais simple d'être patron d'EDF, de toute façon.
Non, ça c'est sûr.
Malheureusement. Voilà, Eli Cohen, invité d'Edwige Chevrillon, la grande interview dans un instant, 19h30, 20h. Et nous, on se retrouve demain, 18h, bien sûr, pour nouvelles aventures.
Et comme tous les soirs, l'émission est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Bonne soirée.
BFM Business, l'info éco, Aude Kersulec.
19h30 sur BFM Business et à la une dans le dossier Casino, Teract renonce à son projet de rapprochement avec le groupe Casino. D'un commun accord, précise le communiqué ce soir, les trois fondateurs de Teract, Xavier Niel, Mouez Alexandre Zouari et Mathieu Pigas, investissent de leur côté 300 millions d'euros d'après nos informations pour un nouveau projet de reprise du distributeur. Et ils pourraient également toujours s'appuyer sur Teract pour un partenariat opérationnel avec Casino. Et ce soir, Euronext annonce un nouvel entrant au CAC 40. Il s'agit d'Edenred, les spécialistes des tickets restaurants, introduits en bourse en 2010. Vivendi sort de l'indice phare concernant le SBF 120. ID Logistics fait son entrée. OVH est exclu de l'indice large. Ce changement sera effectif à partir du 19 juin. Et alors que EDF a été entièrement renationalisé ce soir après son retrait de bourse, le nucléaire n'est et ne sera jamais négociable. Ce sont les mots de Bruno Le Maire. Ce soir, le ministre de l'Économie affirme que la France ne renoncera à aucun avantage compétitif en vue d'une réforme du marché de l'électricité européen espérée fin 2023, pour laquelle le gouvernement veut proposer une nouvelle régulation du prix de l'électricité. La zone euro entre en récession au premier trimestre avec la publication
ce matin d'un deuxième trimestre consécutif de croissance négative. Le PIB s'est replié de 0,1% entre janvier et mars. Cela s'explique en partie par l'entrée en récession de l'Allemagne. L'industrie allemande a beaucoup souffert ces derniers mois des prix élevés de l'énergie. Société Générale cède 4 de ses filiales africaines au Congo, Guinée équatoriale, Tchad et Mauritanie. Il s'agit de l'une des toutes premières décisions de Slavomir Krupa, le nouveau directeur général. Décision qui vise à réallouer le capital de la banque et améliorer le ratio de solvabilité. Meta, ciblé par la Commission européenne sur sa mauvaise protection de l'enfance. Thierry Breton rencontrera Mark Zuckerberg le 23 juin. Mais déjà, le commissaire européen demande à Meta d'agir immédiatement pour lutter contre les contenus en ligne ciblant les enfants. Un mot de la clôture des marchés en Europe en ordre dispersé sur fond d'attentisme. Une petite hausse pour Paris, plus 0,2% à 7222 points. Tout de suite dans la grande interview, Edwige Chevrillon reçoit Élie Cohen, l'économiste.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler évidemment d'EDF, EDF qui 17 ans après redevient nationalisé. Bonsoir Élie Cohen.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes un des meilleurs économistes sur les questions industrielles, notamment bien sûr. Et sur EDF, vous connaissez par cœur le parcours d'EDF. Beaucoup de questions à vous poser. Bruno Le Maire s'est exprimé il y a quelques instants en disant, vous l'avez entendu, le nucléaire n'est et ne sera jamais négociable. Il a parlé de l'importance pour la France de ne pas brader son avantage compétitif. On sait que c'est compliqué face aux Allemands. Mais d'abord, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est les raisons de cette renationalisation. Bruno Le Maire, toujours lui, a dit que c'était une manière pour lui de permettre à EDF de mener des chantiers gigantesques, notamment l'augmentation de la production et puis les nouveaux réacteurs, les petits et les EPR, qui vont être mis en construction. Quels sont, à vos yeux, les enjeux de cette renationalisation? Est-ce que c'est une bonne chose, d'abord?
Vous savez, nationalisation, privatisation, EDF, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la fille aînée de l'État, pour au moins trois grandes raisons. Et EDF produit de l'électricité, distribue de l'électricité, c'est un bien vital pour tous les Français. Donc l'État, quel que soit le gouvernement, ne peut pas se désintéresser de la production d'électricité, du prix de l'électricité. Deuxièmement, EDF produit de l'électricité avec des électrons nucléaires. Et le nucléaire, c'est quelque chose qui est difficile à manier, qu'il faut contrôler, surveiller. Et donc l'État ne peut pas se laver les mains de la stratégie nucléaire et donc de la supervision du nucléaire et de la régulation du nucléaire. Enfin, EDF est ce qu'on appelle en jargon économique un monopole naturel dans un certain nombre de secteurs. Il n'y a pas 36 réseaux de distribution ou 36 réseaux de transport d'électricité. Et donc, comme c'est EDF qui exerce ces monopoles doivent être régulés, à la fois au niveau national, mais également au niveau européen, parce que l'Europe estime que le fait qu'EDF soit le producteur exclusif en matière nucléaire et qu'en même temps il gère les réseaux de transport, ben il pourrait tuer toute forme de concurrence. D'où la régulation européenne spécifique d'EDF et d'où les contrôles par l'État. Donc je dirais, à la limite, peu importe, nationalisation ou privatisation, oui, l'État a toute une série de canaux de contrôle d'EDF.
Oui, la question qu'on peut quand même se poser, à mon avis, je ne suis pas la seule à me poser, surtout c'est les petits actionnaires, hein, les ex-petits actionnaires ce soir, qui se sont... Pourquoi fallait-il privatiser EDF?
La question, c'est pourquoi fallait-il nationaliser EDF?
Ah ben, je sais pas, vous me dites c'était normal, c'était logique parce que... Ben,
non mais, je veux dire, une fois qu'EDF est nationalisé, oui, ce qui était le cas, c'était même un établissement, ouais, public, etc. Pourquoi a-t-on décidé de privatiser?
Ben oui.
Alors, pourquoi? Alors, à un moment...
La réponse d'Élie Cohen.
Alors, à un moment, on a considéré que ça pouvait permettre d'accéder à des financements dans de bonnes conditions parce que le nucléaire était considéré à l'époque comme un bon risque et on pensait que les investisseurs privés allaient se précipiter. Et je me souviens à l'époque, quand EDF a été privatisé, j'avais été interviewé par des journalistes anglo-saxons et ils disaient « Mais EDF, c'est une entreprise formidable. Ils ont un monopole du nucléaire, ça va être une source de rentabilité formidable. » Et je leur disais « Méfiez-vous. Si c'est un monopole et si la rentabilité est formidable, l'État ne laissera pas faire et l'Europe ne laissera pas faire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc à partir du moment où EDF est contraint dans chacune de ses décisions, dans chacun de ses choix, eh bien le fait que l'État renationalise après une expérience de privatisation qui n'aura pas servi à grand-chose, je dirais c'est un retour à la normale.
Retour à la normale, le caractère pleinement souverain des activités nucléaires, évidemment. Alors, on viendra sur la réforme du marché de l'électricité qui est à l'agenda de la Commission européenne, parce que c'est essentiel pour notamment les industriels qui nous écoutent. Je voudrais qu'on regarde d'abord les énormes défis d'EDF, les défis d'Hercule, sans faire de mauvais jeu de mots d'EDF. Défi d'Hercule, parce que vous savez que le projet Hercule a été abandonné, c'était ce que demandait une manière de réponse à Bruxelles. 65 milliards de dettes, un tout petit peu moins, vous l'avez déjà soulevé, c'est un point très important pour Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF.
Ça, si vous voulez,
fait-on pour gérer
ça, les travaux d'Hercule d'EDF, c'est vraiment des travaux d'Hercule. Oui. Premièrement, il va falloir lancer du nucléaire nouveau, les 6 centrales nouvelles, EPR. Et éventuellement même 14 EPR. Donc ça, après s'être arrêté de faire de nouvelles centrales depuis près de 20 ans. Et après, surtout ce que j'appellerais les 10 ans de nucléaire honteux qu'on a eu au cours des 10 dernières années. Tous les gouvernements cherchaient à se débarrasser de la vilaine image du nucléaire. Alors, c'est bien beau de dire aujourd'hui on défendra le nucléaire, on a toujours été pour le nucléaire, on ne transigera pas sur le nucléaire, la fameuse déclaration de M. Bruno Le Maire. Mais la vérité, c'est que l'EDF nucléaire a été laissé à son triste sort au cours des 10 dernières années. Bon, malgré cela, EDF...
Ça, c'est vraiment une erreur politique colossale qui a été poussée par les Verts, par la volonté de faire venir certains ministres...
Ça a été poussé par
Nicolas Hulot, pour ne pas le citer, notamment au gouvernement.
Par les Verts. Et surtout, ça a été inscrit au cœur du programme socialiste avec le fameux engagement de François Hollande et l'objectif du 50-50. Il n'y avait aucune raison de dire 50-50 plutôt que 75-25. Mais ça a été
coulé dans le marbre. Sa majorité.
Et puis surtout, ça devait conduire à la fermeture de 14 tranches de centrales. Fort heureusement, on ne l'a pas fait. On a fermé, si j'ose dire, que les deux tranches de Fessenheim. Ouais. Mais même ça, c'était inutile.
C'était
le sacrifice qui était fait à cette nouvelle coalition vert-rose, si j'ose dire, à la française, et qui a conduit à ces décisions de François Hollande, qui ont été confirmées par
Emmanuel Macron. Loi de transition énergétique, elle n'a été abrogée que tout récemment.
Exactement. Emmanuel Macron, en fait, a varié dans ses positions sur le nucléaire. C'est que dans la période récente, qu'il a décidé de reprendre le tournant du nucléaire en inscrivant au programme les 6 nouvelles centrales. Mais le nucléaire nouveau, ce n'est qu'un des chantiers d'Hercule. Ensuite, il y a le grand carénage, c'est-à-dire toutes les anciennes centrales.
Oui, dizaines de centrales.
Rehausser le niveau pour qu'elles puissent tourner 50 ans et pas seulement 30 ou 40 ans, comme c'était prévu initialement. Donc le grand carénage, c'est des travaux considérables.
C'est un
coût considérable.
Et puis ça va arrêter certains réacteurs.
Exactement. Et puis surtout, ça nécessite des compétences, des mains-d'œuvre et des capacités industrielles que nous avions à peu près perdues et qu'il faut reconstituer progressivement. Donc ça, c'est le deuxième grand chantier. Et puis, le troisième grand chantier, c'est de mettre à niveau les réseaux de distribution et de transport d'électricité, parce que ce n'est pas la même chose de distribuer du nucléaire ou d'avoir plein de renouvelables partout qui posent des problèmes de coordination de réseau.
Est-ce qu'on peut, vous qui connaissez bien l'industrie, Eli Cohen, encore une fois, comment fait-on pour reconstituer des filières? Parce qu'en fait, à part l'EPR en Chine, EDF n'a pas construit de centrales nucléaires depuis très longtemps, donc toutes les filières, elles ont disparu. Donc fait-on pour recréer des filières et combien de temps ça met?
Écoutez ce que dit
EDF. On voit bien avec Flamanville la difficulté. Voilà.
Écoutez ce que dit EDF, le nouveau nucléaire produira ses premiers électrons en 2035.
Ouais.
Donc si vous voulez, on se donne près de 12 ans pour reconstituer cette capacité industrielle, pour reconstituer les filières technologiques, pour rouvrir des centres de formation, pour à nouveau être capable d'avoir des soudeurs, des tuyauteurs, etc. C'est toute l'aventure du nucléaire qu'on avait lancée avant et qui a permis de faire le programme des 56 centrales, qu'on va devoir réinventer maintenant pour faire le programme des 14 centrales.
Oui, c'est quand même.
Donc c'est un chantier absolument considérable. On a commencé et EDF s'applique à faire le tour des écoles d'ingénieurs, des centres de formation pour redonner l'appétit du nucléaire, pour redonner l'appétit de ces technologies et je dirais même davantage pour retrouver la maîtrise industrielle parce que comme moi, vous avez dû être frappé par les ratés industriels de la période récente.
Comment ne pas l'être ?
La perte de compétences de Framatome et au-delà d'Areva Orano. Et donc, c'est tout ça qu'il faut reconstituer. Et je crois que 10 ans, c'est bien visé.
Est-ce qu'on en a les moyens ?
Ah ben si, parce que si vous
voulez... Non, mais c'est une question.
Non, les moyens. Si vous voulez dire au niveau d'investissement... je veux dire les.
Bah, au niveau des ingénieurs de formation, est-ce qu'on trouve
ça, on va les reconstituer progressivement.
Ah bah oui.
C'est un vivier qu'on va reconstituer progressivement.
Parce qu'on va même actuellement chercher des Chinois hein, pour.
Alors ça, c'est toute la question. Oui. C'est toute la question que je pose depuis longtemps. Est-ce qu'il ne faudra pas un retour d'expérience chinois ? Est-ce qu'il ne faut pas que les Chinois nous aident à relancer ce nouveau programme comme nous les avons aidés pour lancer le programme précédent. La rapidité avec laquelle les Chinois ont été capables de faire leur nouvelle centrale, le coût auquel ils sortent le nouveau nucléaire, qui est 2 ou 3 fois moindre que le coût prévisionnel pour le nucléaire français, il y a vraiment un retour d'expérience chinois dont nous avons besoin.
Oui, il y a peut-être un niveau de production aussi qui n'est pas tout à fait le même, je ne sais pas, ou c'est peut-être un faux procès que je fais aux Chinois.
La manière dont ils ont construit leur centrale, les technologies utilisées, même les technologies de béton, de calcul, de structure, etc. Il y a vraiment, je crois, des choses à apprendre auprès des Chinois.
Élie, il faut qu'on parle aussi, il y a des choses très importantes, on va essayer de ne pas être trop technique, parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre, sur la réforme du marché européen, la fin de l'AREN, ces fameux tarifs réglementés, fin 2025, mais donc il faut qu'on trouve un palliatif entre 2023 et 2024, et avec les industriels qui disent, mais attendez, nous on a besoin d'établir des prix, c'est là où il y a un petit bisbille entre Luc Rémont et Bruno Le Maire. Je vous propose d'écouter d'abord Bruno Le Maire, qui s'exprimait devant l'Union française d'électricité et qui est l'UFE, et qui disait, en tout cas pour la France, c'est stratégique, c'est une ligne rouge, c'est un avantage compétitif. CF, regardez du côté allemand. On l'écoute.
Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France. Et la France ne renoncera à aucun de ses avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire. Le nucléaire est un avantage économique. C'est aussi une part de notre identité industrielle. C'est ce que nous sommes comme nation. C'est ce que nous sommes comme économie et c'est ce que nous sommes comme peuple innovant et créatif. Tous ceux qui pensent qu'ils pourraient faire reculer la France sur l'énergie nucléaire par quelque moyen que ce soit, se trompent lourdement. Nous ne céderons jamais sur l'indépendance de la France et sur son accès à l'énergie nucléaire.
Bruno Le Maire, donc, à l'Union française de l'électricité, c'était il y a quelques instants, une petite demi-heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les enjeux c'est plus que les enjeux, les bras de fer presque, de la réforme du marché européen, du marché de l'électricité?
Il faut bien comprendre la crise que nous venons de connaître actuellement. Les Français ont vu les prix de l'électricité flamber et ils ont appris à cette occasion que les prix de l'électricité étaient liés au prix du gaz en Allemagne. Ouais. Donc les Français n'ont pas très bien compris comment le prix de l'électricité en France pouvait être lié au prix du gaz en Allemagne. Alors la réponse est en fait assez simple, le marché européen de l'électricité est intégré. Et donc pour être intégré, en gros, et pour que ça soit économiquement efficace, on fait d'abord tourner les centrales les plus productives et les moins coûteuses, en gros les centrales nucléaires. Puis ensuite, les centrales qui sont plus coûteuses et d'usage moins fréquent, c'est par exemple le charbon. Et puis après, on utilise celles qu'on peut allumer et éteindre rapidement pour faire face à une pointe. Et ça, c'est les centrales au gaz. Or, le prix du gaz, l'année dernière, a pratiquement décuplé. Et donc, mécaniquement, le prix de l'électricité a augmenté. Et comme nous, Français, nous nous sommes trouvés en déficit, nous avons dû importer de l'électricité produite en Allemagne avec du charbon et du gaz.
Ouais.
Et pourquoi on l'a fait ? Eh bien, à cause de la grande panne du nucléaire français.
D'accord.
L'année dernière, pour des raisons diverses, à peu près un tiers de la capacité de production avait été gelée, les centrales étaient fermées, elles ne produisaient plus, et donc nous avons eu un déficit historique de production d'énergie nucléaire, et nous avons dû importer pour faire face à ce choc.
Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être discuté à Bruxelles?
Alors, ce qui se discute
la fin de la REN, donc alors, ce fameux tarif réglementé.
Vous allez trop vite. La REN, vous allez.
Oui, mais parce qu'on est à la radio, à la télévision, vous savez, Élie.
La première chose d'abord, c'est comment faire face à des hausses de prix très brutales et très soudaines. Ouais. L'Espagne a dit, je bloque le prix du gaz chez moi pour pouvoir avoir un prix de l'électricité raisonnable.
Mais eux, ils ont le droit parce qu'ils sont en bout de chaîne.
Non, ils ont demandé une dérogation qu'ils ont obtenue.
Ils ont obtenu. Voilà. Nous, on n'a
pas demandé de dérogation. Par contre, ce qu'on a fait, nous, grâce au quoi qu'il en coûte et le bouclier tarifaire, on a subventionné les ménages pour que ça soit moins coûteux.
Voilà, mais regardons demain.
Alors demain, ce que dit l'Europe, c'est qu'elle dit qu'il va falloir qu'on corrige le défaut majeur du marché de l'électricité aujourd'hui, qui est que les prix dépendent du prix de court terme, ce qu'on appelle du prix du marché spot. Ouais. C'est-à-dire, c'est le prix instantané qui devient le prix général. Alors, c'est absurde, comme je vous l'ai dit, parce que ça veut dire que c'est les centrales gazières en Allemagne qui déterminent le prix. Alors que nous, par exemple, en temps normal, nous avons un mix énergétique, comme on dit, qui est à base de nucléaire, et ce serait logique plutôt de tarifer au prix moyen. Donc, la proposition que fait l'Europe est la suivante. Pour inciter les industriels à investir dans le nucléaire, par exemple,
Ou dans le renouvelable.
Oui,
puisqu'il faut doubler notre production d'énergie renouvelable.
Voilà. Pour inciter à l'investissement, on va instaurer ce qu'on appelle des contrats pour différence. Ça veut dire qu'on fixe un prix de l'électricité produite à partir, disons, d'une centrale nucléaire lambda. Mmh. Si les prix augmentent très fortement, à ce moment-là, l'État subventionne. Si les prix baissent très fortement, à ce moment-là, les entreprises restituent à l'État les sommes qu'elles ont touchées. Et d'ailleurs, on a déjà appliqué ça aux renouvelables et ça a déjà produit une baisse de la facture d'électricité. Mais normalement, ça, c'est une forme de généralisation des contrats à long terme d'approvisionnement, là où on était habitué à du court terme.
Oui, mais un des enjeux, il y a le financement des EPR, ça c'est un point très important, mais c'est les conditions de rémunération des réacteurs, donc tu parlais de l'AREN, comment on les rémunère, à quel prix? Et là, je disais, il y a un petit bras de fer, enfin, il va avoir un bras de fer.
Alors, vous avez
entre
raison.
Le patron d'EDF qui dit bah, plus c'est cher, plus je peux m'en sortir, et Bruno Le Maire qui dit il est en hors de question parce que
alors,
pour les Français,
raison.
Ça ne peut pas être trop cher.
Le problème, c'est que EDF était hyper dominant avec son nucléaire, et donc on lui a imposé une régulation, l'AREN, qui consiste à donner à un prix garanti, 42 euros le mégawatt-heure, de l'électricité à ses concurrents. Le problème, c'est qu'on a fixé le prix à un niveau trop bas, dit EDF, un niveau qui ne permet pas le renouvellement des capacités de production et qui ne permet même pas l'entretien des anciennes centrales. Donc, normalement, ce dispositif
se termine en 2025.
Ouais. Et donc, la question est-ce que ce dispositif va être reconduit ou pas? En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça ne se fera pas à ce prix-là.
Oui. Parce que lorsqu'on écoute les industriels, ils vous disent, mais il faut qu'on puisse regarder, c'est un véritable défi pour eux. Mmh. Nous, on a besoin, notamment les énergéticiens, ils disent, et l'UNIDEM, ils disent, on a besoin d'abord d'avoir la visibilité sur les prix, et puis d'avoir des prix qui nous permettent une couverture à long terme, donc d'avoir des contrats à long terme.
Oui. La visibilité, ils vont l'avoir à la fois à travers les contrats à long terme,
qui jusqu'à présent
étaient bannis et qui vont être autorisés par la nouvelle législation européenne. On appelle ça des PPA, c'est-à-dire qu'on pourra signer des accords à moyen long terme avec des prix garantis. La visibilité, ils l'auront parce que les nouvelles capacités de production vont être installées grâce à ces contrats pour différence dont je viens de vous parler, qui vont inciter à créer des capacités de production nouvelles et à éviter le choc de la sous-capacité que nous avons connue jusqu'à présent. Et donc, ayant des contrats à long terme, les distributeurs eux-mêmes auront une plus grande visibilité et ils pourront garantir aux consommateurs finaux des prix qui, du coup, seront moins volatiles. C'est ça le dispositif que l'Europe est en train de négocier et qui va bientôt être finalisé.
Après, il y a aussi un bras de fer entre État et Luc Rémont. Mmh. Luc Rémont qui s'est dit tout à l'heure aussi favorable à ces contrats long terme en disant que c'est la meilleure façon, je le cite, de créer de la visibilité pour le consommateur comme pour le producteur. Mais maintenant, il y a l'Allemagne en face. L'Allemagne, donc, il ne veut pas du nucléaire, on va pas refaire le débat sur la taxonomie, mais il faudra bien qu'on trouve un accord. Parce que c'est un avantage compétitif énorme pour les Français. Et là, on a l'impression que les Allemands, ils aimeraient bien, enfin, ils ont réussi, du reste, à faire disparaître cet avantage compétitif.
En fait, la vraie question, c'est que la France et EDF voudrait accéder à des financements privilégiés pour son nouveau nucléaire au motif qu'il participe à la stratégie de décarbonation. De même, il voudrait qu'on fasse des progrès dans le stockage d'électricité en utilisant de l'hydrogène, mais de l'hydrogène gris, comme on dit, c'est-à-dire de l'hydrogène dont l'énergie de base est d'origine nucléaire, ce que l'Allemagne refuse absolument. Je crois qu'on arrivera à un compromis dans la mesure où la position allemande n'est pas tenable sur l'hydrogène vert et l'hydrogène gris, et que par contre, l'Allemagne n'acceptera jamais que d'une manière ou d'une autre, on subventionne le nucléaire. Donc le nucléaire nouveau sera financé par l'État, et ça tombe bien, EDF va être nationalisé à 100%.
Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Juste quand même, encore un point, hier je recevais le directeur exécutif de RTE, qui ont, c'est le RTE, c'est le corps de l'électricité, si j'ose dire. Absolument. Mais qui donne aussi ses prévisions et qui va servir comme support à la prochaine loi. Est-ce que on va affronter effectivement un mur énergétique, comme ils le disent, en 2030 ou pas ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années encore, on pensait qu'on allait réduire progressivement la consommation d'électricité. Oui. Là, on annonce un doublement avec l'électrification des usages économiques. On parle du véhicule électrique, bien entendu. Vous imaginez le bouleversement si le parc automobile entier bascule.
Des usines ?
On parle des usines avec des technologies propres, avec de l'acier produit avec de l'électricité verte. On parle donc également de d'autres types de transports et surtout de la grande conversion énergétique des logements, du tertiaire, etc., en tout électrique. Et puis on a un objectif européen très ambitieux, c'est le Fit for 55.
Oui, on en parlait hier, oui.
Donc qui fait qu'on doit baisser nos consommations de produits carbonés d'ici 2030. Et donc, tout ceci représente une augmentation significative de la consommation d'électricité. Donc, il faut accroître les capacités de production. Ouais. D'où le nouveau programme français.
Et oui, mais qui va arriver hyper tard. Qui va arriver en 2035. Vous-même, vous l'avez rappelé.
En attendant...
Et en plus, il y a les visites décennales en 2031.
En attendant, on a le grand carénage. Oui. C'est-à-dire, on va faire passer de 40 à 50 ans la durée de fonctionnement. Et surtout, on a renoncé à ce programme de fermeture des 14 tranches. Donc, tout ça fait qu'on va élever...
Vous êtes confiant.
On va élever la part du nucléaire par rapport... Puis, il y aura, comme le disent les gouvernants, des mesures à la fois d'économie et de sobriété.
Oui, ça peut rapporter 40 TWh par an. C'est énorme, quand même.
Écoutez, les Français ont baissé leur consommation d'électricité de près de 20%. Ça a surpris tout le monde.
Oui, on se chauffe, moi, vous me direz. Ça tombe bien en ce moment. Et la climatisation. Merci beaucoup, Élie Cohen. Merci toujours très intéressant d'entendre votre décryptage sur cette renationalisation d'EDF. EDF 100% dans les girons de l'État. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la podcaster pour ceux qui nous regardent à la télévision avec le petit QR code. Sinon, nous retrouver sur le site de BFM Business. Et puis tout de suite, comme tous les soirs, Tech & Co, François Sorel, très bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.